Bon, merci Sylvie. Donc j'ai déjà été présenté, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Je m'excuse d'abord pour avoir manqué la journée d'hier. J'ai des fonctions de DU que vous connaissez pour tous les gens qui ont été DU, et donc c'est pas facile. Et donc j'ai été pris par ça. Et je m'excuse aussi pour une autre raison, parce que je vais un peu décaler mon propos par rapport à ce qui est indiqué dans le résumé. Et effectivement, être plus collé au réseau que c'était indiqué dans le résumé proprement dit. Donc, je vais vous parler illustrer d'une certaine façon ce que vient de dire, pas illustrer, mais enfin marquer d'une autre façon ce que vient de dire Sylvie, par la présence des systèmes de transport dans l'espace migratoire, pour faire court. Et en particulier dans les villes ou entre les villes. Et donc je prends ce système de transport, si vous voulez, comme un prisme, hein, comme il est écrit là, pour saisir la mise en mobilité des personnes, la constitution de réseaux d'infrastructures qui traversent les villes, mais aussi qui relient les villes. Et aussi, à travers ces systèmes de transport, la façon dont les processus de différenciation s'accentuent, s'exacerbent, les processus de contrôle également. Et donc, d'une certaine façon, là, la migration, la mobilité d'une manière générale ou la migration est contrainte par ces systèmes d'infrastructures, par ces systèmes de réseaux de villes, par l'institutionnel, si vous voulez. À l'inverse, on peut aussi voir le transport comme il est indiqué, pas comme un réceptacle des façons de penser un peu autrement des populations, des façons de contourner parfois les règles pour se mouvoir. On a beaucoup parlé de normes et vous verrez que le transport, c'est aussi une façon d'échapper à quelque chose de mis en place. Et donc, je vois particulièrement cette interaction transport-mobilité-migration. Donc, dans les espaces urbains métropolitains, la mobilité étant de plus en plus considérée, est-ce que d'ailleurs elle n'a jamais, elle a peut-être toujours été comme ça, facteur de production de la ville. Et puis aussi un petit peu dans les espaces frontaliers. Alors, pour cela, je pars d'une dizaine, voire plus d'années d'observation et d'enquête avec les collègues ici présents autour de la table et aussi quelques autres dans la salle. Donc dans les villes d'Afrique de l'Ouest et dans les espaces frontaliers d'Afrique de l'Ouest, avec quelques exemples de villes que vous pouvez voir, est basé toujours sur un travail essentiellement qualitatif d'entretien avec les professionnels de transport, les migrants de passage en ville ou aux frontières, et évidemment les autorités nationales et locales. C'est quand même principalement mes trois entrées, avec quatre points qui vont être abordés assez rapidement. Donc, d'une part, l'ancienneté des questions de mobilité et de transport sur ces terrains que j'ai regardés. Un deuxième point sur la mobilité intégrée, contrôlée, institutionnalisée. En revanche, un troisième point sur finalement les espaces où il y a transgression par rapport à cette intégration, si vous voulez. Et du coup, en quatrième point, les tensions qu'on observe entre ces deux modalités. Alors, en premier point, la question des permanences en Afrique de l'Ouest, de cette question des frontières, des villes, des rapports entre frontières, villes, mobilité et transport. Il y a bien une continuité qui est de plus en plus documentée maintenant entre espace colonial et espace post-indépendance en Afrique. Il n'y a pas de rupture au moment des indépendances, si ce n'est un changement peut-être de frontières, mais en tous les cas, on a une permanence, par exemple, d'un transport, un système de transport qui est globalement orienté vers les côtes, comme on le voit sur cette première carte en haut à droite, avec les voies ferrées en noir et les grandes routes en rouge. Et c'est quelque chose qui a perduré et qui a contraint très fortement les mobilités des Africains. Quand on voulait se déplacer, finalement, il fallait d'abord et avant tout rejoindre un port ou rejoindre une côte pour envisager autre chose. Et ça perdure et ça continue à perdurer aujourd'hui. Quand on voit par exemple la carte du dessous, où on voit la reproduction d'un parcours d'un migrant nigérian que j'ai rencontré en Mauritanie, qui est parti donc du centre du Nigeria, qui est passé par Lomé, vous voyez, parce qu'à un moment ou un autre, Cotonou plutôt, à un moment ou un autre, il doit passer par Cotonou, par le réseau qu'il a, le réseau dont a parlé Sylvie, ou par les modalités de transport qui lui sont le plus appropriées, de là reprendre un autre autocar, et de là reprendre un avion, un train ou un autre autocar, etc. Donc il y a d'une certaine façon un enchâssement, comme il est indiqué, des mobilités dans les systèmes de transport, ce qui nous permet à nous de ne pas scinder les objets et les approches, et d'essayer au maximum de croiser les deux en permanence. Aujourd'hui, c'est juste une focalisation un petit peu sur un moyen de transport très emblématique en Afrique de l'Ouest, c'est l'importance de l'offre par autocar, à la fois au Mali à droite et au Burkina Faso à gauche. Quand on interroge et quand on monte à bord de ces autocars et quand on interroge les personnes, on se rend compte d'abord de la diversité du public et surtout de la diversité des destinations, la diversité des origines, des métiers et l'importance surtout des parcours migratoires et des gens qui partent pour migration de tous âges, qui sont là présents dans ces autocars et qui ne reviendront peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parfois dans 4 ans. Donc là, il y a une vraie imprégnation de la migration par ce système de transport, qui d'ailleurs, au passage, est quand même très bon marché. Alors le deuxième point, sur la contrainte qui est en train de s'opérer par le système institutionnalisé des réseaux de villes en Afrique de l'Ouest, sur les mobilités, les migrations. Alors, de plus en plus, ça a été dit encore une fois, peut-être par Mehdi ce matin, par Sylvie, les villes constituent un des éléments phares de l'espace migratoire. De plus en plus, on en vient, de plus en plus, on y retourne. Et le renouvellement urbain, dans ces grandes villes africaines, mais aussi dans les villes secondaires, doit passer aussi, on doit prendre en compte aussi les mobilités, la compréhension des mobilités et des parcours migratoires pour comprendre comment la ville change. Je ferai simplement référence aux travaux d'un Sénégalais que vous connaissez peut-être, Cyril Mansourtal, qui a bien montré comment le parc immobilier de Dakar au Sénégal et d'immenses banlieues se sont constituées avec les remittances dont tu as parlé, je crois, et non pas finalement autrement que par des projets de planification, même si ça rentrait à un moment ou à un autre dans des projets de planification. Donc un renouvellement urbain très fort. Et au cœur de ces courants migratoires, les réseaux d'infrastructures prennent une place prépondérante, hein, comme les corridors de transport, qui est une figure spatiale de la fluidité en Afrique pour faire circuler les personnes et surtout les biens, comme vous en voyez quelques-uns de ces corridors sur l'Afrique, entre les ports et les grandes capitales. C'est là que se font les grandes circulations, c'est là que les systèmes de transport sont les plus performants, et donc c'est là que les migrants vont passer, parce que c'est là que les autocars vont passer, c'est là qu'on a une chance d'aller le plus vite possible pour aller d'un point à un autre, et donc comme ils sont très visibles, ces systèmes de transport, ces grands corridors, où il y a tous les modes de transport, l'accès aux grandes gares, l'accès aux grands aéroports, l'accès aux grands ports, ils vont constituer évidemment le soubassement d'un réseau de métropoles en Afrique de l'Ouest très fort et qui est vraiment une figure très prégnante parmi les bailleurs de fonds, parmi aussi pas mal de géographes. Or, je pense qu'il faut sans doute voir un peu les choses de façon plus compliquée, en tous les cas plus complexe. Si je prends le dynamisme des transports urbains proprement dit dans ces grandes villes, à quoi on assiste ? On assiste à une systématisation de la réforme portée par les autorités métropolitaines, par les professionnels, par les usagers, avec le but de doter ce transport urbain de systèmes de transport à la hauteur du standard et du standing international, comme vous pouvez le voir en haut à droite, avec des infrastructures modernes, des parcs plus modernes qu'auparavant, des lignes, des opérateurs privés, avec des aménagements qui ne doivent rien à tout ce qu'on pourrait trouver ailleurs dans le monde, hein, comme en bas à droite. Pourquoi je vous... Comment je reviens ? Il faut jamais faire ça. Voilà. Parce que vous verrez un peu plus loin combien les migrants ont pris leur part dans ce renouvellement des systèmes de transport urbain. Troisièmement, à côté de cette institutionnalisation, de ce système de métropole, de cette intégration des parcours de la mobilité et de la migration dans un système institutionnalisé, il y a des espaces de la transgression. Comme il y en a toujours eu. Et on n'arrête pas de dire qu'à côté de normes, évidemment, il y a des gens qui passent à côté. Fonctionnement spatiaux transgressant les découpages classiques. Hein. Et là-dedans prennent place des flux de déplacement plus discrets, parfois clandestins, souvent tolérés et souvent négociés avec les États, contrairement à ce qu'on voudrait bien dire. Et là, il y a quelques exemples d'espaces finalement transnationaux qui favorisent la circulation, à commencer par l'espace religieux reliant Mauritanie et Sénégal, et à la limite, j'aurais pu intégrer le Maroc au nord, qui permet la circulation de pèlerins, de mêmes références religieuses, d'imams, de chefs religieux, sur tout un espace, et pour de longues durées, faisant de ces personnes souvent des migrants, alors qu'ils étaient peut-être partis pour 15 jours, 3 semaines, il reste 6 mois, 1 an. Évidemment, il y a, pour focaliser sur le Sénégal, un espace très particulier qui rayonne bien au-delà du Sénégal, autour de la cité mauride de Touba, que vous avez sur la carte, et qui est le cœur religieux, le cœur spirituel donc, de cette confrérie soufie, et qui permet, si on lisait dans le détail, vous verriez, qui permet à la fois aux migrants de circuler entre tous les pays dans lesquels ils sont mourides, dans lesquels ils sont installés, en allant vers ou en venant de Touba, et puis aussi de faire venir ou d'envoyer des produits. Si on lisait dans le détail, on verrait qu'il y a des produits qui... toutes les flèches correspondent à des produits d'importation, correspondent à des origines de Gambie, de Dubaï, de Chine, etc., de Guinée, etc. Il y a évidemment la circulation, un exemple plutôt contemporain, la circulation des orpailleurs en Afrique de l'Ouest qui transgressent complètement les frontières, les orpailleurs allant finalement là où il y a des possibilités de placeurs et de creuser, comme disait Sylvie. Et puis on pourrait aussi prendre l'espace ivoiro-burkinabé qui permet aujourd'hui la circulation relativement aisée des Burkinabés, en particulier de Côte d'Ivoire vers la Burkina, du Burkina vers la Côte d'Ivoire, moyennant les systèmes de transport, notamment par autocar. Ces espaces de la transgression trouvent une expression particulière dans le transport. Le transport permet vraiment de s'échapper, voire de contourner la règle, que ce soit le car rapide que vous connaissez peut-être à Dakar, ce véhicule emblématique des systèmes de transport artisanaux africains, donc le car jaune et bleu, jusqu'à la moto qui est en plein essor, parfois moto-taxi, qui permet donc de se déplacer de façon très très facile d'un point à l'autre des villes, mais pas uniquement dans tous les quartiers enclavés, parfois dans les campagnes, parfois de passer des frontières allègrement à côté des postes de contrôle. Et donc on peut imaginer évidemment que des gens qui doivent passer la frontière plus facilement qu'ils ne feraient sur une grande route, les grandes routes dont je parlais tout à l'heure, pourraient utiliser ces motos. On va même parfois jusqu'à comprendre l'autonomisation de certains territoires. Quand on regarde les travaux de certains collègues sur le nord du Cameroun, le sud du Tchad, le nord de la Centrafrique, pays ô combien soumis à des crises politiques sérieuses actuellement, et je ne parle pas spécialement de Boko Haram, hein, je parle de crises entre les périphéries et les centres de ces pays, eh bien on se rend compte que quand on lit ces travaux, on voit comment la moto est devenue un moyen de faire circuler les informations dans ces territoires autonomes, circuler l'information, circuler les hommes, circuler les femmes, circuler évidemment aussi les armes, puisque souvent c'est quand même des conflits armés. Et donc on est, pour finir, dans un espace des mobilités et des migrations finalement en tension entre cette institutionnalisation des systèmes de mobilité et de migration qui va amener à du contrôle, et puis ces systèmes que je viens de décrire qui vont passer un peu à côté, qui vont transgresser. Cette tension, par exemple, dans les villes, elle se trouve bien caractérisée, par exemple, dans les gares routières, là, comme on voit sur la carte à droite. C'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu, c'était la même gare, hein, mais tout à l'heure, vous avez vu une gare à Dakar où des véhicules étaient bien rangés, très propres et très récents. Et puis là, on est un peu plus loin dans la gare, avec des véhicules plus anciens, parfois qui ont 30 ans, moins bien rangés, On pourrait parler de, si on ne faisait pas attention, on dirait que c'est le chaos, comme les commerçants qui sont devant. Mais en tous les cas, ce parc a été aussi en partie fondé par les migrants de retour qui ont tenté d'investir, ou les migrants qui n'étaient pas revenus, mais qui ont envoyé de l'argent à des frères pour investir dans un véhicule. Et donc on voit bien que, et je pourrais parler des commerçants qui sont devant, qui ont reçu peut-être un peu d'argent pour lancer leur commerce de fripes des États-Unis ou de Belgique ou de France. Et on voit bien que si on commence à normer l'investissement dans le transport, si on commence à créer plutôt un système institutionnalisé de transport qui répond à des normes, à un standard, etc., on va fragiliser les investissements de migrants. Sur les routes de l'espace CEDEAO, c'est encore pire, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus un amalgame entre circulation, les fameuses circulations que j'ai décrites ici et là, et la migration clandestine. C'est particulièrement vrai depuis, on va dire, une quinzaine d'années avec la descente au sud, en Afrique, de la frontière Schengen, hein. Et cet amalgame, évidemment, produit des contrôles de plus en plus forts sur l'espace transnational, si vous voulez, à ouest africain, devient ce qu'il ne voulait pas être, ou ce qu'on ne voulait pas en faire, c'est-à-dire il redevient une juxtaposition d'espaces nationaux avec un durcissement des frontières. Et les bailleurs internationaux soutiennent fortement cette réinstitutionnalisation des frontières. Et on voit là, on est à la frontière, à la photo, là, sur la photo, à la frontière entre le Mali, où je suis placé, et la Mauritanie, quand on regarde la photo, au nord de la barrière, en bas à gauche de la photo, avec ce projet d'accueil des migrants financé par, je ne sais plus qui, l'Union européenne. Donc PAMIREG, projet d'accueil des migrants volontaires de retour et des migrants en transit à Gogui, donc qui est la ville frontière Mali-Mauritanie, pour les migrants qui ont été interceptés sur le territoire mauritanien en situation irrégulière pour la Mauritanie. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la Mauritanie a été construite en partie par des migrants qui étaient en situation irrégulière depuis une cinquantaine d'années. Donc vous voyez qu'on bon, rentrer dans le débat, ça serait compliqué. Là, il y a un vrai durcissement de la frontière, une vraie cristallisation des enjeux sur cette frontière qui était, encore une fois, quelque chose de plutôt poreux, puisque la Mauritanie a eu une longue politique d'accueil des travailleurs migrants. Non pas pour partir au Maghreb, mais plutôt pour construire la Mauritanie contemporaine. Et évidemment, plus la frontière est consolidée, plus les migrants, à un moment ou à un autre, soit deviennent passeurs, soit on les amalgame à des passeurs. Et donc on voit qu'on donne à voir un espace de fragilisation, finalement, pour les gens mobiles, surtout ceux qui n'ont pas de ressources, les femmes commerçantes, les enfants aussi, hein, dans les autocars que vous avez vus tout à l'heure, j'ai rencontré des jeunes de 17, 18 ans. En Afrique de l'Ouest, ce sont encore des enfants, encore considérés comme des enfants. Et ils n'étaient pas du tout en situation d'esclavage pour aller travailler dans les mines ou je ne sais pas quoi. Non, ils allaient rejoindre un frère, mais enfin le frère était au Congo, donc évidemment, ça allait être une longue route, parsemée d'étapes dont parlait Mehdi. Évidemment, ils vont être plutôt en situation inquiétante et inquiétés s'ils sont interpellés, etc. Et puis aussi les étrangers à l'ère culturelle. Hein. Dans ces espaces plutôt francophones, musulmans, être d'Afrique centrale, côtière, Golfe de Guinée, chrétien et en plus anglophone, c'est pas facile. Donc il y a une sorte de différenciation entre les cercles. Il y a des bons migrants, des migrants un peu moins bons et des migrants en situation très délicate. Pour conclure, donc je dirais que effectivement, on est dans cet espace-là des mobilités, des migrations, des transports, où donc les deux s'interconnectent en permanence, qui est à la fois libéré et en même temps contrôlé, et qui permet quand même un espace du compromis, qui est aussi un espace du compromis, hein, c'est-à-dire que on négocie en permanence avec les autorités comment passer, comment exister dans le transport, comment. Donc c'est pas un espace où tout est. Non, ça a toujours été des espaces où on discutait, on négociait. Mais on voit bien que ça peut devenir, et ça le devient, des espaces de la contrainte. Et j'ai certains collègues qui parlent même d'espaces en système démocratique, d'espaces autoritaires. C'est-à-dire qu'être dans cet espace vous contraint d'entrer à des positionnements très particuliers. C'est ça l'espace autoritaire. Est-ce qu'on va. Et quand on voit l'intitulé du programme, c'est-à-dire la diffusion mondialisée d'un modèle de gouvernance, on va peut-être vers un renforcement de cet espace de la contrainte. Voilà. Merci.
Merci, Jean.